What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No. Not wounded, sir.
Get
ready.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena. Proprio non mi ricordate.
Che non si fattissimo? Come fattissimo?
Bonjour à toutes et tous, cinéphiles, artistes et artisans de la vie qui passe, de l'instant présent et de ses dérèglements. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, une table nombreuse, je suis bien contente, une table nombreuse pour nous parler des films à l'affiche. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Clotilde. Salut Clotilde.
Bonjour.
Alexis.
Bonjour.
Mathieu.
Bonjour.
Mais attention, c'est pas le même Mathieu pour les auditeurs et auditrices de Cinémascope. Et Olivier.
Bonjour.
Et c'est toujours le même.
Oui, on change peu.
Et Sylvain, la réalisation. Salut Sylvain.
Bien le bonjour.
Ils viennent discuter de pas mal de choses. De Lee Miller, du Robot Sauvage, de Joker, Folia 2, de Regards Croisés. De Quand vient l'automne, c'est le reboot, mais aussi des rencontres sévenoles du cinéma qui auront lieu dès ce soir et tout le week-end à Rosières, et aussi de cinéma marocain et sénégalais pendant le festival Images et Paroles d'Afrique grâce au MRAP au navire et puis de plein d'autres choses. Allez, on commence tout de suite, alors on va commencer peut-être un petit peu dans la douleur, j'ai l'impression.
You must be Lee Miller.
Just Lee is fine.
We don't send women to combat.
Well, that's a problem, because I'm here.
Welcome to Vogue magazine.
I hear you're the woman to see about a job.
Yes, I am.
I've seen your photographic work. You're really very impressive.
You dislike anyone who questions you, especially when you know you're wrong. And you have secrets that you'll never share.
I'm never wrong.
That's our lead.
It happened so slowly. Yeah, kind of overnight.
We woke up one morning and Europe was at war.
Only non-military access for women.
I just want to do my part. Why should the men get to decide what that is?
I'm heading to the front. Ready to go?
That's not what I thought you were going to say.
Oh, yeah. Lee Miller de Hélène Curras avec Kate Winslet. Et yes, oh yeah, j'ai vu, mais même là au son, mais j'ai vu cette bande-annonce et je me suis dit, mais on fait encore des bandes-annonces comme ça?
Oui, voilà, c'est
tellement
ça.
Classique, tellement voilà. Hollywoodienne.
Bon, bah, c'est bon, on peut passer au suivant.
Voilà, très bien.
Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, donc, Lee Miller porte bien son titre puisqu'elle est sur tous les plans, dans tous les plans. Lee Miller donc est une jeune femme née en 1907. Sa première heure de gloire, c'est dans les années 30. Elle est la muse de Man Ray. Elle suit le surréalisme. Elle a fait des études aux Beaux-Arts de Paris. Elle est très belle. Elle est mannequin, Hitchcockien, voilà. Donc la bourgeoisie new-yorkaise. Enfin, c'est brillant. C'est extrêmement brillant. Et puis la guerre arrive. Et elle, comme elle est passionnée, elle le dit elle-même, de sexe, d'alcool et de photographie, elle est engagée par Vogue Grande-Bretagne, puis par l'armée américaine pour suivre le front qui avance vers Berlin. Et puis elle est une des premières photoreporteurs dans les camps.
Voilà. Qui va suivre effectivement la progression.
Donc on a, c'est vraiment un biopic centré sur le personnage de Lee Miller qui est en lui-même intéressant puisqu'effectivement elle s'extrait du milieu bourgeois surréaliste et de l'art surréaliste pour devenir une des premières photographes reporters de guerre. Le problème, si vous voulez, le premier problème, c'est que, comme tu l'as souligné simplement en écoutant la bande-annonce, on est dans une succession de clichés sur les trois thèmes évoqués.
En même temps, le fond et la forme, hein.
Voilà,
une succession
c'est ça.
De clichés, je me dis.
C'est ça, tout à fait. Donc, on a les clichés de la séduction, on a les clichés de l'alcoolisme. Vous savez, cette scène qu'on a vue dans 10 000 films de l'alcoolique qui se resserre un verre, puis se resserre un verre, puis se resserre un verre, et le vide cul sec, etc. Et puis, on a les clichés du reportage de guerre, comme on a dans de nombreux films, comme Civil War, par exemple, etc. Bon. Et malheureusement, c'est que ce qu'apporte le film, c'est de plus en plus explicitement un parallèle entre les blessures d'enfance de Lee Miller, qui a subi...
Tu nous dis tout, là, peut-être.
Non, mais c'est pas tant. C'est-à-dire, elle a ses blessures, et ses blessures et leur côté indicible est mis en parallèle avec le côté indicible des camps et de la guerre, du front. Alors, je le disais à mes camarades avant de prendre le micro, loin de moi l'idée de diminuer la douleur d'une enfant qui a subi des violences sexuelles, loin de moi de cette idée-là, naturellement. Néanmoins, mettre en parallèle une souffrance personnelle avec la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, et ce qui n'est pas un détail, le meurtre de 6 millions de Juifs, ça me paraît malaisant au minimum, et au maximum relevé du révisionnisme historique, quoi.
Donc c'est le parti pris, en fait, de...
Voilà, c'est le parti pris de cette mise en parallèle de plus en plus explicite, plus on avance dans le film, entre la douleur personnelle et la douleur européenne, qui est pour, encore une fois, pour le moins malaisant.
D'accord.
Pour le moins malaisant.
Ok, bon, restons-en là. On passera plus de temps sur les prochains films. Merci beaucoup, Olivier. Donc allez voir ou pas Lee Miller à Aubenas, bientôt au Teil. Et puis peut-être il y a des documentaires. Souvent c'est l'occasion de ressortir des bons documentaires sur Lee Miller.
Le personnage, oui, doit c'est être ça. Très très intéressant, très intéressant. À rechercher.
Allez, passons à autre chose avec un peu plus de joie et de bonheur peut-être. Eh oui, What a Wonderful World. J'ai laissé donc la bande-annonce est uniquement en musique. Le robot sauvage de Chris Sanders. Et étonnamment, ce n'est pas Olivier qui fait la chronique jeune public, mais c'est Alexis. Alexis, tu es allé voir Le robot sauvage.
Exactement. Alors, grand fan de films d'animation. Donc, j'ai été voir avec hâte le dernier bijou de DreamWorks. Alors, je fais un petit rappel, mais DreamWorks, donc c'est un peu la maison de Steven Spielberg. Enfin, en tout cas, ça a été formé par Steven Spielberg et un autre, alors j'ai plus son nom, mais qui était un ancien de Disney. Alors, DreamWorks a eu des belles années avec Shrek, on parle de Dragon, on parle de Kung Fu Panda. Et ces dernières années, on a vu un petit peu DreamWorks, tâtonner, voilà, avec, moi je pense à Ruby Lado Kraken, qui a fait un flop total auprès du box-office. Là, on a eu Kung Fu Panda 4, qui a redonné un petit peu de succès, mais un film qui n'a pas une qualité exceptionnelle. Voilà, on est sur l'histoire des suites, et bon, DreamWorks, alors, le dernier film qui est sorti, c'était Le Chapoté 2, qui était de très très bonne qualité, enfin, à mon goût, voilà. En tout cas, dans son animation, il y avait quelque chose de nouveau, et ça fait du bien, parce que, voilà, on était habitué à Disney, Pixar, voilà, le 3D. Et donc, je veux parler aujourd'hui du robot sauvage, tout simplement, parce que, voilà, on est sur les mêmes principes du Chapoté 2 au niveau visuel, donc déjà c'est quelque chose de frais. On va partir sur un robot qui s'appelle donc Rose et qui arrive sur une île déserte et qui va forcément avoir une amitié avec les animaux de la forêt et en fait qui va créer une amitié avec trois personnages qui est une oie, un renard et un robot. Un renard, une oie et un robot. Oui. Donc, c'est les trois personnages principaux. Et donc, c'est une histoire assez simple où on va avoir trois personnages qui vont avoir trois trajectoires différentes, mais qui vont se répondre toutes les trois. Alors Loa, c'est elle se questionne sur sa place dans le monde, sur ses origines. Le renard, lui, va être plutôt dans la recherche d'affection, mais son ego va toujours être là, qui va l'empêcher d'avoir cette affection-là, en tout cas de recevoir avec les autres. Et le robot, qui va être lui en perpétuel changement, parce que forcément il est programmé pour quelque chose, et le fait d'aimer, d'accompagner ces animaux là ça va l'emmener sur le robot, donc ça veut dire aimer quelque chose, et c'est pas dans sa programmation à lui. Et donc en fait on va suivre un petit peu, alors histoire classique, parce que voilà, moi ça me fait penser un peu, c'est un peu le Wally DreamWorks, voilà. Oui, ça c'est on sent un petit peu cette patte là. Après moi j'ai énormément aimé ce film, simplement pour le message, parce que forcément on a nature robot, les deux qui s'opposent, voilà, la technologie, la nature.
Quelle est la place de la liberté, justement?
Exactement, voilà. Et ce que je peux dire, c'est que moi, c'est arrivé très rarement, mais les films d'animation sur lesquels je pleure, il y en a très rarement, et j'ai pleuré tout le long du film. Voilà, j'avais toujours la petite larme. Alors peut-être que c'est mon côté un petit peu émotionnel, mais le dernier dans lequel j'ai pleuré, c'est Coco. Voilà, c'était la dernière claque, c'était celui-ci. Alors un petit peu Toy Story 3 aussi, voilà, pour la fin, pour ceux qui se reconnaissent. Et puis. Alors je veux pas trop en dire, parce que c'est pas moi je veux laisser les enfants, les familles aller découvrir le film. Moi c'est juste le petit coup de cœur que je peux vous donner, et aller voir ce film qui est vraiment époustouflant, en tout cas au niveau visuel. C'est une histoire simple mais touchante. Voilà.
Bah voilà, je pense que ça a donné envie. C'est d'après le scénario, c'est un bouquin, c'est ça, hein,
oui.
Qui avait été édité,
oui.
De Peter Brown.
C'est ça, c'est ça.
Folio Jeunesse.
Voilà.
Ok, merci beaucoup. Mathieu, tu dos de l'iné de la tête,
tout
tu,
à fait.
Ça te parle, tu l'as pas
je
vu,
pas
mais
encore
ça,
vu.
Ça te donne envie de le voir.
Exactement.
Très bien.
Bah. J'ai vu Toy Story 3 en plus, j'ai revu Toy Story 3 il y a peu de temps, et ça m'a bien parlé là.
Et as-tu pleuré?
Non. Toy Story 3, si.
Ouais. Ouais.
Bah oui, toujours.
Okay. Bah voilà.
Toujours.
Donc, Le robot sauvage de Chris Sanders, à voir. Il est en ce moment au navire à Privas, Auteuil, peut-être après dans d'autres cinémas. Allez, on poursuit avec un autre film. J'ai pas de transition là, je ne sais que dire. What the world needs now.
Tell us, what's changed, Arthur?
Well, I'll tell you what's changed. We're not alone anymore. That's what we should be talking about.
Joker, Folie à deux de Todd Phillips. Non, c'est pas du tout Quand vient l'automne de François Ozon, mais ça n'a rien à voir. Mais comment ai-je pu. Mais
c'est pas tout à fait la même ambiance.
C'est ça, c'est la fièvre me prend. Moi aussi, je sue des oreilles et des dents, ça ne va plus du tout. Joker, Folie à deux, donc de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Et vous l'aurez peut-être entendu, Stéphanie Germanotta, alias Lady Gaga. Alors, un film, on entend un peu tout et son contraire. Enfin, moi, j'ai entendu tout et son contraire, j'ai lu des critiques, je suis pas allée le voir. Mais toi, Clotilde, tu es allée le voir. Et alors ?
Oui, alors, les critiques sont acerbes et elles sont, je trouve, injustifiées. Todd Phillips, c'est un réalisateur qui revient de loin, j'ai envie de dire, parce qu'il a quand même fait Very Bad Trip et ce genre de choses avant de faire Le Merveilleux Joker de 2019. Et là, il enchaîne sur Joker Folie à deux, qui est osé. Mais en même temps, dans l'air du temps, on critique beaucoup son côté comédie musicale, mais c'en est pas vraiment une non plus. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très à la mode. Alors pourquoi lui le mitrailler pour le fait que les acteurs et les actrices chantent beaucoup, alors que d'autres films n'ont pas eu ce problème? Par ailleurs, le fait de chanter un vrai sens dans l'histoire, enfin, il y a vraiment une... C'est un élément déclencheur, en fait, le chant. Si vous allez voir ce film, vous comprendrez très bien pourquoi je dis ça, mais Donc voilà, c'est le lien qu'il a avec Harley Quinn, c'est, voilà, c'est leur folie à deux, c'est autour de cet univers du chant, cet univers onirique du chant, que Arthur Fleck et se sent bien, aussi bien en Joker qu'en Arthur Fleck, auprès de Lady Gaga. Donc voilà, y a, enfin, de Harley Quinn, il n'y a pas de... Pour moi, effectivement, le film est long, peut-être un peu trop, mais... Franchement,
2h28
je crois. Ou 2h18, mais oui, bon, il y a beaucoup de choses à raconter, et c'est peut-être aussi ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est de, voilà, de sortir du personnage du Joker des comic books. Le Joker, il a plein d'origines diverses et variées, hein, plein d'écritures différentes de son histoire, et Todd Phillips, je trouve qu'il résume bien. Enfin voilà, il a pioché des éléments, surtout dans le cinéma, je dirais, pour la création de son personnage du Joker. Et en fait, voilà, il reste dans les codes de cet univers. Je trouve qu'il n'y a pas spécialement d'erreur. Et effectivement, la déception générale qu'on peut entendre dans la presse ou sur les réseaux, c'est la fin. Alors, je ne vous la dirai pas, mais...
Non, s'il te plaît.
Mais voilà, il faut aller voir ce film. Mais en tout cas, c'est surtout le déroulé. Et moi, je trouve qu'on sort du comic book et on va dans le fond du sujet. Pourquoi Arthur Fleck est devenu fou? Pourquoi il en est arrivé à là? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette dualité dans sa personnalité? Et c'est un film qui questionne plein de choses dans notre société. Donc, je trouve qu'il est louable à tout point de vue, sans oublier, bien sûr, la fantastique incarnation de Joaquin Phoenix. Il est vraiment aussi, peut-être encore meilleur que dans le premier Joker, dans son incarnation du personnage. C'est fantastique, vraiment.
Juste sur le traitement de la folie à l'écran, est-ce que toi, ça te paraît...
Alors, ça me paraît bien, justement, incarné par Joaquin, qui bascule... on le voit sans même qu'on nous le dise, à quel moment il bascule d'un côté ou de l'autre de sa personnalité. C'est aussi super bien filmé, cadré, mis en lumière, etc. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de négatif à dire.
Je peux me permettre, Alexis. J'ai vu le film aussi. Donc, ouais. Et, alors, moi, je dirais qu'il y a un lynchage collectif, en règle générale, parce qu'en fait, déjà, les fans de comics, quand le premier Joker est sorti, ça a laissé des gens de côté. Même si le film a fait l'unanimité critique et donc spectateurs et presse, il y avait déjà des gens mécontents parce qu'ils s'attendaient pas à ce film-là. Donc film
c'est
un
ça.
Peu plus
c'est une question d'attente.
Exactement. Oui. Et on est passé aussi sur une comédie musicale, donc pour le 2, et c'était un pari. La comédie musicale, c'est quand même pas vendeur à l'heure d'aujourd'hui. Je parle par rapport aux spectateurs qui sont visés pour le Joker. Donc à la base, c'est des gens des comics ou des gens qui aiment Marvel, etc. Et là, on part sur quand même un univers complètement différent. Et donc les gens s'y attendent pas forcément. Et en plus de ça, la bande-annonce, qui est fait exprès, le laisse pas forcément entendre. Et en plus, à l'heure d'aujourd'hui, dans les bandes-annonces de comédie musicale, on ne met pas de chant. Tout simplement parce qu'on a peur de perdre du public. Oui. Donc c'était laisser un peu la surprise aux spectateurs. Et alors moi, le film, moi je suis mitigé. Je dirais pas que c'est... il mérite pas ce lynchage-là. Clairement pas. L'esthétique est magnifique et je te rejoins sur donc tes explications. Moi, je trouve que c'est une toute petite redite du 1. Est-ce que le 2 est nécessaire par rapport au 1? C'est la question que je me pose. Alors, je pense que le 2 serait sorti avant le 1, mais c'est toujours l'histoire. C'est que je pense qu'il aurait une critique complètement différente. Et là, forcément, il souffre de la comparaison. Et bon, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Je suis d'accord avec toi, et je pense qu'il y a un lynchage qui fait partie des réseaux, et même des gens qui ne l'auraient peut-être pas vu et qui auraient mis une critique juste pour défoncer le film. Voilà.
Oui. Okay. Non, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de ce qu'on attend et de ce qu'on nous donne, mais c'est pareil, c'est un pari. Et,
c'est ça, c'est un pari, et il y a une prise de risque, d'une certaine mesurée, mais quand même, et c'est peut-être ça qui est aussi intéressant au cinéma, d'aller voir
dans ces cas-là, tu sors ton Joker, quoi, en fait.
Il fallait la faire. Merci. En tout cas, allez voir par vous-même. Joker Folie à deux, c'est au Navire, à Privas, à Rions, en ce moment, et peut-être dans d'autres cinémas, bientôt. On continue.
Tout est parti d'une question.
Comment il fait? Comment il s'adapte avec sa différence? John est mon ami de longue date, mais je viens seulement de réaliser sa force d'adaptation au quotidien. Ensemble, on a décidé de partir à la rencontre de personnes touchées par le handicap.
Que t'aies un bras en moins, que t'aies 32 QI, que t'en aies 180, que t'aies une canne, que t'aies un fauteuil roulant, t'es un humain en fait.
Je suis d'abord Philippe, je suis d'abord Gabriel, je suis d'abord Martine, je suis d'abord Youssef, et accessoirement, je suis une personne en situation de handicap, mais je suis d'abord quelqu'un.
La différence, c'est une richesse en fait. C'est une richesse.
Quelques secondes de la bande-annonce de Regards croisés, un film documentaire. Regards croisés entre handicap et société, un film documentaire de Gabriel Campina et John Dauvin, qui sera diffusé au moins deux fois ici en Ardèche, en avant-première, une fois ce soir à Lussas. Et demain soir, dans le cadre des rencontres cévenoles du cinéma à Rosières. Et justement, pour nous en parler, Mathieu est là.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour. Oui, Regards croisés, c'est un film qui va vous toucher, dans tous les cas, que vous soyez handicapé ou pas, c'est pas le sujet. C'est parce que c'est un film riche, la richesse de la différence, comme on entendait dans la bande-annonce. Donc c'est un film fait par deux Ardéchois, qui ont une société de production, mais qui ont décidé de faire un documentaire sur finalement l'un des deux associés qui est lui-même handicapé. Et du coup, en fait, l'histoire part d'aller retrouver ses racines et de finalement discuter de son handicap avec sa famille à lui, et qu'il n'a jamais fait ça avant, donc ils partent en Belgique. Et donc son associé le suit dans cette aventure en le filmant. Et donc à travers un jeu de voix off et d'interviews, ils arrivent à nous emmener dans leur voyage de la discussion du handicap, du fait d'en parler avec ses proches, et aussi du coup de continuer leur voyage en allant rencontrer d'autres personnes handicapées ou des aidants et leurs familles, puisque finalement c'est un film qui met aussi en avant toute cette richesse-là, le travail des aidants pour ouvrir le regard des gens sur tout ça. Et donc finalement on arrive sur un regard de la société, comme on entendait dans la bande-annonce. Je ne suis pas une personne handicapée, je suis un être humain. Et finalement, c'est tout ça qui sort de ce film, en fait. C'est la rencontre, c'est la richesse, c'est l'ouverture d'esprit, du regard. Et finalement, en fait, on est tous à la même enseigne, quoi, voilà.
Et alors, moi, j'ai peut-être la question qui fâche, je ne sais pas, moi, j'ai juste vu la bande-annonce. Oui. Est-ce que la forme est au diapason du fond? C'est-à-dire que le fond, on entend, le message, d'ailleurs, c'est très compliqué d'émettre un avis. Évidemment, on a tous envie de trouver chouette un film qui parle d'une certaine manière du handicap, mais oui. Est-ce que formellement aussi, c'est un film...
Ben moi, je trouve que justement, le fait de l'avoir monté comme un documentaire, mais qui est mixé entre une voix off qui est faite soit par Gabriel, soit par John, et les interviews des proches et des personnes qui m'ont rencontré au fil de l'eau, ben en fait, ça... Il y a toujours de la musique derrière, il y a toujours un fil conducteur, on le suit. Donc ils alternent vraiment ce côté interview, voix off, qui nous fait suivre un fil qui pour moi est cohérent et ça fonctionne très bien. Enfin, moi je trouve que ça fonctionne très bien.
Un chemin. C'est exactement. Un chemin. Exactement. Donc ce sera... Oui, Olivier.
Oui, je voulais signaler à propos de Regards croisés qu'au cinéma Le Navire, dans le cadre de Ciné-Échange, lundi 21 octobre à 18h, oui. Allait être diffusé de Nicolas Philibert sur l'Adamant, qui est un film qui alors porte sur les mêmes questions et marie très très bien justement le fond et la forme dans sa fabrication. Nicolas Philibert, donc, qui s'est fait un peu d'ailleurs une spécialité de rendre compte de la maladie mentale.
Oui, c'est ça. Là, c'est effectivement la maladie mentale. Mmh. Là, on parle plus de handicap.
Tout type de handicap. Au départ, on part sur le handicap physique. Mais au fil des rencontres des autres personnes dans le film, il y a toutes sortes de handicaps, des troubles autistiques et d'autres formes de handicap physique.
Ok, merci beaucoup. Donc ça, c'est à voir et ce soir à Lussas et surtout, mais on va en parler un petit peu après, de samedi dans le cadre des rencontres cévenoles du cinéma donc, qui débutent aussi ce soir.
Tout à fait.
On va voir. Allez, un dernier mot d'un film Olivier, tu voulais reparler d'un film dont on a parlé justement la semaine dernière, Quand vient l'automne de François Ozon.
Oui, rapidement, Alexis nous avait parlé de Quand vient l'automne, j'avais eu envie d'aller le voir, j'ai été le voir, et effectivement, donc rapidement, c'est une histoire qui, au début, j'ai eu un peu peur de me retrouver dans le cas des gens d'à côté, ou du procès du chien, ou du roman de Jim, c'est-à-dire une histoire quand même un petit peu exagérément complexe et fabriquée et artificielle. Hein. Et ce qui est quand même le cas, alors les films que je viens de citer s'en sortent plus ou moins, mais il reste cet effet de difficulté à rentrer dans une image, dans une histoire à laquelle on ne croit pas trop au départ parce que c'est trop artificiel. Ici, on est dans un cas un peu semblable et François Ozon part d'une anecdote qui est arrivée dans sa famille. Alexis nous en a parlé, mais enfin, c'est quand même très très loin des éléments du film. Et François Ozon a dit qu'il voulait faire ce film dans l'optique de revenir à l'écriture. Et effectivement, il avait fait quelques adaptations auparavant. Et là, il a voulu écrire le scénario et en s'inspirant de Guitry pour l'histoire de l'empoisonnement et puis de l'ambiance de Simenon. Et quand le film se termine, on voit qu'est crédité Agatha Christie pour un roman « La mort n'est pas la fin ». Et ça a été pour moi comme une espèce de déclic, c'est-à-dire que je me suis dit que effectivement le film était écrit comme une histoire d'Agatha Christie, c'est-à-dire que les éléments, les informations que nous recevons successivement sur la réalité des faits, ces informations nous viennent comme nous viennent les informations dans un roman, une enquête hein, d'Hercule Poirot, quoi, finalement. Si bien qu'on passe à travers ce que l'histoire aurait pu avoir d'artificiel, parce qu'au lieu d'être mis à l'écart par le côté artificiel de l'histoire, on y est ramené par l'intrigue, si vous voulez. On dit, qu'est-ce qui se passe au fond là? Voilà. Donc je peux absolument rien dire sur la chose, évidemment, puisque c'est comme un roman d'Agatha Christie, c'est dommage de raconter la fin. Alors, mais simplement, c'était pour dire que ça soulignait l'importance, peut-être qu'elle n'est pas assez soulignée, de l'écriture du scénario quand on fait un film. Voilà, simplement.
Et oui, ouais, merci. C'est pour ça que tu voulais nous parler de ce que ça évoque aussi pour le cinéma de manière générale, voilà, l'importance justement de l'écriture dans le scénario. Oui, il nous reste. Allez, on avance un petit peu pour parler justement de plusieurs rendez-vous importants. On commence avec toi, Clotilde. Tu voulais donc nous parler de ce festival Images et Paroles d'Afrique avec le cinéma d'abord marocain à l'honneur, puis sénégalais.
Oui, c'est ça, il y a deux rendez-vous. Donc c'est la semaine prochaine, mercredi 16 octobre, c'est le cinéma marocain qui est mis à l'honneur, avec deux films, un à 14h30 qui se nomme Haut et Fort, de Nabila Yebouch, et qui est vraiment à destination des ados. Si vous m'écoutez, venez, ce sera super, vraiment. Et voilà, ça parle de rap et de développement de soi, d'individualisation par rapport à la famille, par rapport à sa société, etc. Et c'est vraiment un beau film qui est à la fois une fiction et à la fois un documentaire parce que les acteurs qui jouent leur propre rôle, en fait. Voilà.
Donc ça, c'est mercredi à 14h30.
Ouais. Ensuite, on enchaîne avec un film qui s'appelle La mère de tous les mensonges. Ça, c'est à 17h30 et c'est un documentaire donc d'une réalisatrice marocaine aussi, Asmaï El Moudir. Et elle, autour, à l'intérieur de, comment dire, des mensonges ou des non-dits de sa famille, elle va en fait révéler une histoire populaire qui a eu lieu à Casablanca en 1981. Donc c'était juste une journée, c'est le 20 juin 1981. Il y a une révolte populaire, une grève générale à Casablanca parce que la farine a explosé au niveau du prix. Et donc, évidemment, tout ça est étouffé dans la violence par les militaires et même effacé de manière aussi très violente. Donc en fait, à travers l'absence de souvenirs ou voilà, de peut-être les mensonges ou même au sein de sa famille, elle recrée cette histoire populaire effacée par le royaume du Maroc. Et de fait, elle écrit son film avec. C'est pour ça qu'il y a du théâtre d'objets. C'est plus qu'il y a aucune trace visuelle. Il y a aucune photo. Il y a rien du tout. et ben elle reconstitue comme ça avec avec des petites mises en scène. Donc c'est en termes de scénario, c'est très original de mise en scène aussi.
La mère de tous les mensonges, donc à 17h30, oui. Mercredi, Olivier.
À l'issue de ce film, il y a un délicieux buffet marocain qui est proposé à prix libre.
Ce qui ne gâche rien.
Ce qui ne gâche vraiment rien, connaissant le cuistot. Et si vous êtes intéressé par ce buffet et par celui du dimanche auquel je vais venir, il y a un numéro de téléphone pour réserver, qui est inscrit, par exemple, sur le programme du navire.
Allez sur la page du navire.
Sur la page Facebook du MRAP.
Puisque le MRAP co-organise cet événement.
Voilà, le MRAP est même à l'origine de cet événement. Et présentera chacun de ses films, d'ailleurs. Et le dimanche, 17h30, c'est Dahomey de Mati Diop, qui est donc un documentaire fantastique, on l'avait évoqué la semaine dernière, qui suit la restitution des œuvres béninoises depuis le musée du Quai Branly jusqu'à Cotonou. Et donc, pourquoi fantastique ? Parce que on interroge à la fois l'accueil de ces statues par les populations béninoises et le voyage de ces statues qui rentrent dans leur pays en se demandant ce qu'elles vont y retrouver. Voilà.
Très, très intéressant.
Donc, intriguant. Ouais. Et voilà. Donc, à l'issue de ce film, un buffet sénégalais pour lequel, effectivement, si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver au même numéro. Et on enchaîne à 20h avec Banel et Adama de Ramatatou Laïssi, qui est son premier long métrage et qui est vraiment là sur l'ordre du conte africain, mais qui pourrait aussi être un conte assez
universel,
voilà, sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte et de l'amour dans une société où le silence est de mise sur les sentiments. Voilà.
Et néanmoins en langue peul.
Voilà, alors ça c'est vraiment... sur ces quatre films, on est vraiment sur les paroles et les images africaines. Enfin, c'était vraiment le choix de la sélection et voilà, on est en plein dedans.
Super, merci. On parlait de dimanche, mais c'est le dimanche 20 octobre, hein. C'est pas ce dimanche, ce sera dimanche suivant. On commence d'abord mercredi, mercredi avec le Maroc, puis ensuite le Sénégal et le Bénin, dimanche 20 octobre. Il y a aussi de l'international dans le festival qui commence là ce soir. En fanfare d'ailleurs, les rencontres Sévenol du cinéma qui reviennent pour une 4e édition avec beaucoup d'avant-premières. Il y a 8 avant-premières sur les 15 films qui seront présentés. Et je disais donc, ça commence ce soir dès 19h30 avec la projection du film d'ouverture En fanfare qui est réalisé par Emmanuel Courcol. Mathieu, donc parle-nous un petit peu de ce... Il nous reste quelques minutes pour nous parler de ce festival, de ces rencontres.
Tout à fait. Donc les rencontres Sévenol du cinéma, ça fait donc 4 ans qu'on les fait à Rosières, au cinéma Le Foyer. Cette année, on a mis une thématique. Donc chaque année, il y a une thématique. Cette année, c'est la thématique avant-première. On a déjà fait une thématique musique, on a déjà fait une thématique Cévennes. Donc cette année, c'est les avant-premières, il y en a 8-9. Les temps forts à pas rater, donc ce soir, 20h30 le film, 19h30 c'est l'accueil des premiers arrivants, mais 20h30 le film, donc en fanfare, avec en préambule un petit court-métrage d'ailleurs qui parle d'autisme aussi. Deuxième temps fort, donc demain, on en a évoqué, 18h, Regard croisé, le documentaire des réalisateurs Gabriel Campina et John Dauvin. Sachant que demain il y a 8 films en tout qui vont être diffusés, je vais pas faire la liste de tous les films, le programme est disponible sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et dimanche, dernier temps fort avec L'Amour Ouf, donc de Gilles Lelouch, suivi d'un live en direct avec Paris, c'est-à-dire qu'on sera en live, donc il y a une diffusion live
en direct, on peut dire en français,
en direct, exactement, en direct depuis Paris. Et les gens pourront interagir avec les comédiens et réalisateurs qui seront à Paris à travers, les réseaux sociaux. Donc on pourra poser des questions en direct et avoir les réponses.
Le film a l'air intéressant, le film de Gilles Lelouch.
Ah oui. Ouais. Celui-là, on ne va pas le rater.
Oui, j'ai l'impression. Oui.
Redonne-nous donc la date, le moment.
Donc dimanche, 16h, pour L'Amour Ouf, suivi donc du direct depuis Paris. Et donc le dernier film, c'est 20h30 dimanche pour clôturer l'événement Le Choix du Pianiste, un drame historique.
Ok, voilà. Très bon. Donc,
programmation, belle programmation.
Ouais, magnifique. Ouais.
En plus, ce samedi, il fait tout gris, donc allez-y, on sera beaucoup mieux au cinéma.
Ouais. Venez découvrir Rosières si vous ne connaissez pas le cinéma de Rosières.
Venez découvrir le cinéma de Rosières, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Mathieu.
Merci à vous.
Et puis, bah, merci à tous. Si, une dernière chose. On parlait de cinéma jeune public. Où est ma feuille ? Le Petit Manchot. Mon ami, Le Petit Manchot.
Oui, bien.
À Tueil, ce dimanche, à 14h. Exactement. Il y a eu une malencontreuse coupure de courant. Eh bien, mon ami, Le Petit Manchot, ne s'en laisse pas découdre et il revient à Tueil, donc dimanche à 14h. Voilà, si vous n'avez pas pu le voir ou si vous étiez justement frustré de ne pas voir la fin, mon ami Le Petit Manchot à Tueil grâce à la Maison de l'Image. Voilà, merci tous les quatre d'être venus nous parler de cinéma et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain. Ciao.
Ciao, ciao.